Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Par les temps qui courent, c'est chaque soir une heure d'entretien avec les artistes dans l'actualité culturelle. Ce soir, avec la traductrice Danielle Robert.
Un tango, une danse, un baiser.
Du bouta, pépété, pépé.
Par les temps qui courent.
Ça y est, plus facilement.
Romain de Bec de Lièvre.
Et c'est que dans ce moment de présent.
Et que c'est en faisant qu'on devient un faiseron.
Jusqu'à ce que le corps entier commence à devenir lui aussi visage.
Mon guide et moi, par ce chemin caché, nous retournâmes dans la clarté du monde. Et n'ayant cure de nous reposer, nous montâmes, lui premier, moi second. Tant qu'enfin les belles choses je vis, que le ciel porte, par une percée ronde, et ce fut vers les étoiles, la sortie. C'est ainsi que s'achève le dernier chant de l'enfer de Dante Alighieri, une sortie, une percée, une montée vers le ciel. Ce qui attend Dante et son guide Virgile, c'est une montagne, des âmes rédemptrices, et tout en haut, Béatrice. Ce qui les attend, c'est le purgatoire que vous nous proposez, Danielle Robert, dans une nouvelle traduction où les vers riment et se répondent en français. Bonsoir, Danielle Robert.
Bonsoir.
Votre nouvelle traduction du purgatoire vient de paraître aux éditions Actes Sud, 2 ans après celle de l'enfer. Merci d'être là.
Merci à vous. Alors, lève ses voiles la nacelle de mes facultés pour des flots plus heureux, laissant derrière elle une mer si cruelle. Et je chanterai ce royaume d'eux où l'âme se purge de ses faiblesses et devient digne de monter aux cieux. Mais qu'ici la poésie morte renaisse, ô sainte muse, car c'est ma vocation, et que Calliope ici un peu se dresse, accompagnant mon chant avec ses sons, dont les malheureuses pies ressentirent un coup à désespérer du pardon. La douce couleur d'oriental saphir, qui dans le climat serein du milieu se recueillait, pure à n'en plus finir, vint redonner du plaisir à mes yeux, dès ma sortie de l'atmosphère morte qui m'avait attristé le cœur et les yeux. La belle planète qui à aimer exhorte faisait tout entier sourire l'Orient, voilant les poissons qui lui faisaient escorte. Je me tournai à droite, observant l'autre pôle. 4 étoiles je vis, vues seulement par nos premiers parents. Le ciel de leur feu paraissait réjoui. Ô pôle boréal, comme veuf tu es, puisque de leur vision tu es démuni.
Danielle Robert, Mélissa Barbeau vient de lire un extrait du tout début du Purgatoire, c'est le tout début du chant premier, et on entend la particularité de votre traduction, qui est, je le disais dans mon introduction, qui est que vous faites rimer le français. Est-ce que c'est cette intention-là qui a présidé à cette traduction pour vous ?
Oui, exactement. Exactement. Lorsque j'ai décidé de me mettre à ce travail qui m'est apparu au départ comme un peu insurmontable, un monument, j'ai très vite été convaincue que je ne pouvais pas le faire autrement qu'en observant cette tierce rime, ce système de tresse de 3 rimes en 3 rimes, qui est la cellule de tout l'ouvrage, qui est à la base pour Dante de tout ce qu'il veut faire comprendre
au lecteur au fil des chants et des vers. Donc il a choisi ce système qui existait de façon un peu embryonnaire avant lui chez les troubadours, mais qu'il a vraiment porté à son apogée et qu'il a surtout fait tenir sur 14 233 vers. Et c'est un système rythmique et rythmique qui lui permet de donner une impulsion constante au récit. Et ce jeu de trois rimes dont la première et la troisième d'une strophe vont ensemble, mais le second vers, lui, entraîne deux rimes qui sont dans la strophe suivante en position 1 et 3. Le vers 2 de cette strophe étant à son tour un entraîneur de rimes pour la strophe suivante, cela lui permet d'éviter la monotonie, de donner une sorte de moteur à tout son texte, et c'est ce qu'il veut. Et tout le récit va être celui d'une marche, une descente puis une montée. Dante et son compagnon Virgile et tous les autres personnages qu'il rencontre marchent constamment. Et c'est Nelmetso del Camin.
Au milieu du chemin.
Voilà. Et il y a ce Nelmetso del Camin qui est la position initiale, à la fois dans l'espace et le temps, mais il y a aussi le fait qu'il va entreprendre une très longue marche initiatique.
Est-ce que c'était pour vous aussi une manière de rendre à Dante la dimension chantée, enfin le chant ?
Tout à fait, tout à fait. Le texte est fait pour être dit. C'est un texte qui est très oral, qui se prête magnifiquement à une mise en scène théâtrale, d'ailleurs, et qui était dit beaucoup plus que lu de façon, par les yeux, parce que très peu de gens était lettré à l'époque, donc le texte de Dante, comme celui de tous les autres poètes, était avant tout récité, dit et se transmettait de bouche à oreille, et justement par l'oreille, par le rythme, qui est un moyen mnémotechnique aussi, mais qui en plus apporte une dimension poétique extraordinaire au texte.
Au tout début de ce chant 1, on entend aussi quelque chose d'assez classique dans la poésie, qui est l'invocation aux muses. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, là, dans ce début de purgatoire ?
Dante commence toujours par une invocation dans chacune des trois cantiques. Il demande tantôt à Apollon, tantôt aux muses, aux neuf muses, de l'aider dans son entreprise, parce que le poète, dans l'Antiquité comme à l'époque médiévale, le poète est une sorte de médiateur entre les hommes et les dieux, ou Dieu. Et Dante mêle très volontiers les dieux de l'Antiquité et le Dieu auquel il croit, de la chrétienté. Et tout au long de son cheminement, il prendra toujours des exemples dans l'un et l'autre univers, dans l'un et l'autre monde, parce qu'il veut montrer ce passage de monde païen au monde chrétien. Donc là, il invoque les muses pour avoir la force d'aller jusqu'au bout de son entreprise.
La particularité de ce système de rimes dont vous avez parlé, donc qui fonctionne aussi en trois, c'est qu'on a la sensation que, plutôt que par rapport au système pair, il y a quelque chose qui n'est pas satisfait, en tout cas à l'oreille. Le fait d'avoir trois rimes identiques, ça fait qu'on reste comme en suspens. C'est quelque chose aussi de cet ordre qui fonctionne dans la poétique de Dante ?
Oui, tout à fait. Il tient à faire en sorte que son texte soit vivant et sans cesse recommencer d'une manière nouvelle. Il joue constamment sur l'identique, le même et l'autre. Et ce système rimique, justement, lui permet à la fois de donner à l'oreille une impression familière de déjà entendu et quelque chose de nouveau qui casse cette impression trop familière qu'on pourrait ensuite trouver comme un peu ennuyeuse. Et le texte de Dante n'est jamais ennuyeux. Il est sans cesse relancé par ce système-là.
Dans l'introduction que vous faites, c'est dans l'Enfer, vous insistez aussi sur l'importance du chiffre 3 chez Dante.
Bien sûr.
Il y a trois chants, donc l'Enfer, le Purgatoire, le Paradis, trois rimes, et c'est quelque chose qui est le motif de la Trinité est extrêmement structurant.
Bien sûr, à l'intérieur aussi de chaque partie, il y a 33 chants, donc 99 chants, Et il y a, au début de l'enfer, un premier chant qui sert en fait de proémium, de prologue. Et ce qui lui permet d'arriver au chiffre 100, qui est évidemment le chiffre qui représente parfaitement cette foi dans la Trinité. 3 et 1, un seul Dieu en trois personnes, ou une seule substance en trois substances.
Il y a une dimension ésotérique aussi là-dedans.
Bien sûr, bien sûr. Oui, oui.
Je vous propose qu'on rentre plus avant dans l'espace du purgatoire.
On sait quel est le lieu de l'au-delà où on expie les péchés mortels. C'est l'enfer. Mais maintenant qu'existent les péchés véniels, quel est le lieu dans lequel ces péchés vont être expiés quand on meurt chargé encore de péchés véniels? Eh bien, il faut trouver un lieu. Et c'est le purgatoire qui va recevoir les morts qui n'ont plus que des péchés véniels à la fin de leur vie, soit qu'ils aient eu le temps de se confesser, soit qu'ils ne l'aient pas eu. Mais ça ne suffit pas, parce que la doctrine qui se forme, c'est que ce dont on peut être encore délivré après la mort, ce sont les péchés, même mortels, dont on s'est confessé, même si l'on n'a pas eu le temps d'accomplir partiellement ou entièrement la pénitence. Par conséquent, le purgatoire, une des définitions du purgatoire, c'est le lieu où passe un certain temps entre la mort et la résurrection ceux qui sont morts, chargés d'une part de péchés véniels et d'autre part de péchés mortels confessés, mais pas entièrement racheté par la pénitence.
Daniel Robert, on entend la voix de l'historien médiéviste Jacques Le Goff en 1982, qui a écrit un livre qui s'appelle « Naissance du purgatoire », que vous citez d'ailleurs en introduction du purgatoire de Dante. Alors c'est assez technique, il explique ce que c'est en tout cas l'invention de cette chose. Le purgatoire, c'est une invention du Moyen-Âge. Quelle est la particularité de Dante dans son traitement, lui, de l'espace du purgatoire ?
Justement, la doctrine de l'Église, à ce moment-là, ne situait pas le purgatoire là où le situe Dante. C'était un peu vague, mais on le pensait au fond du monde, au centre du monde, comme l'enfer. Un autre espace de châtiment. Dante, lui, invente un lieu qui se situe aux antipodes de Jérusalem, donc dans l'hémisphère sud, auquel il parvient après avoir descendu tout le long du corps de Lucifer avec Virgile, et une fois arrivé au pied de Lucifer, il part avec Virgile, et se retournant, il voit que Lucifer a les jambes en l'air et la tête en bas. Et
on
il ne comprend pas pourquoi. Et Virgile lui dit, tu es arrivé dans un autre monde. Et cet autre monde, c'est l'hémisphère sud. Donc, ils cheminent longuement. Et lorsque, justement, ils arrivent enfin à revoir les étoiles, ils sont sur une plage qui comporte au loin une montagne. Et ils vont devoir tourner autour de cette montagne qui a 2 assises et 7 niveaux. Tourner en allant de gauche à droite, alors qu'en descendant dans l'enfer, c'était de droite à gauche, puisqu'ils sont dans l'autre hémisphère. Et au sommet de cette montagne, qui n'est pas pointue, mais au contraire évasée, il y a un vaste espace qui est le paradis terrestre. Donc le purgatoire, lui, est un lieu en plein air, si on peut dire, et qui donne accès au paradis terrestre, à l'Éden. Et là, c'est une invention poétique parfaite de Dante. Alors, ce lieu du purgatoire, comme l'a dit Jacques Le Goff, c'est un lieu d'attente. C'est l'attente d'être enfin pardonné. Ce que Dante ajoute à ce que disait l'Église à ce moment-là, c'est que il n'est pas nécessaire de s'être confessé. Il suffit d'avoir eu, même à la dernière seconde de sa vie, un moment de repentir. Et il appelle ça la lagrimetta, une larmichette suffit. Dès l'instant que le pécheur, même s'il a commis les choses les plus affreuses du monde, s'est repenti une fraction de seconde, il ne sera pas damné. La miséricorde divine va jouer. Mais il va falloir qu'il expie quand même ses péchés. Et c'est pourquoi il est obligé de passer dans ce lieu du purgatoire, qui est un lieu de souffrance, effectivement. Les souffrances n'y sont pas aussi terribles qu'en enfer, mais elles sont quand même assez pénibles, même physiquement. Certains ont les yeux cousus, d'autres sont obligés de ramper par terre. Mais ce châtiment physique est accepté par les pécheurs. Ils savent qu'ils ont l'espérance, ils ont l'espoir et même la certitude d'être sauvés. Donc ils acceptent la punition et ça donne à toute cette partie un climat complètement différent de celui de l'enfer, où règne la sérénité, parfois même une sorte de joie. En tout cas, lorsqu'ils se rencontrent, ils sont très heureux de se rencontrer, alors que les pécheurs de l'enfer se haïssent et poussent des hurlements. Là, tout est plutôt serein et amical. Et ils s'entraident les uns les autres. Même lorsque les pécheurs étaient des ennemis durant leur vie, ils sont dans le même lieu et ils ne se haïssent plus.
Une des particularités aussi, oui, du purgatoire, c'est d'être justement un espace de transition. Et Dante, qui donc circule avec Virgile à l'intérieur de cet espace-là, on lui confie aussi souvent le rôle d'intermédiaire, c'est-à-dire que les gens qui vont rencontrer vont lui dire « mais quand tu reviendras sur Terre, prie pour nous, permettre d'obtenir la rédemption plus rapidement ».
Oui, c'est une chose à laquelle Dante tient absolument, c'est de montrer que la prière a une grande valeur. Et donc toutes ces âmes mortes qui ont laissé sur terre des amis, des parents, espèrent que les prières de ces vivants vont pouvoir hâter leur accession au paradis. Et donc lorsqu'ils s'aperçoivent qu'ils ont affaire à quelqu'un qui est vivant, ce qui les étonne tous énormément, tous lui disent « mais qui es-tu pour faire de l'ombre ?» Parce que Dante a une ombre. Lorsqu'il circule, au fur et à mesure de la marche du soleil, il a une ombre.
C'est eux n'ont pas d'ombre.
Ils sont eux-mêmes des ombres. Et lorsqu'il dit « oui, je suis vivant, je suis venu là, mais je vais retourner dans le monde des vivants », alors ils lui demandent tous d'intercéder auprès de leurs femmes, leurs filles, leurs frères, etc., pour hâter la joie d'être enfin près de Dieu.
C'est aussi un espace où on chante beaucoup, le purgatoire. Enfin, les âmes chantent beaucoup. Il y a beaucoup de psaumes, de prières. On voit beaucoup de foules comme ça.
Oui, beaucoup de foules et beaucoup de chants, beaucoup de psaumes, effectivement. Et là, c'est tout ce que Dante doit à la musique. Il était extrêmement mélomane et très fort en musique. Il s'y intéressait énormément. Et c'est l'époque, lorsqu'il écrit la Commedia, où la polyphonie est en train de se développer énormément et d'atteindre son apogée. Et la polyphonie est née de ce qu'on appelle l'organum, c'est-à-dire un système de notation musicale qui permettait de faire... de donner à une première voix la possibilité de s'exprimer, et après cette voix, d'autres, une autre, puis une troisième, puis une quatrième, venaient s'ajouter, et ça donne un chant choral polyphonique. Donc, Dante, effectivement, s'est beaucoup inspiré de ça, et dans le purgatoire, on voit constamment des groupes d'âmes, d'ombres, qui chantent. Évidemment des psaumes qui chantent toujours des airs extrêmement harmonieux, mélodieux et qui montrent par là leur espérance.
On a la sensation aussi que le purgatoire fonctionne un peu comme une espèce de machine littéraire. J'ai eu ce sentiment-là, comme une espèce d'espace où les âmes circulent justement entre l'enfer et le paradis, et qu'il y a quelque chose de la transformation ou de la métamorphose littéraire qui a lieu là.
Littéraire. Alors, ces âmes-là, elles ne circulent pas entre l'enfer et le paradis. Elles sont placées dans le purgatoire et elles attendent le fait d'aller vers le paradis. La transformation, oui. Ils sont en train tous de se transformer, plus ou moins rapidement. Et Dante comprend que pour avoir accès lui-même au paradis un jour, lorsqu'il sera mort, il faut qu'il se transforme dès maintenant. Et en même temps, c'est une leçon qu'il donne à tous les hommes, à tous les êtres humains. Il faut opérer sa métamorphose, sa transformation pour accéder à la joie suprême. Et sur le plan littéraire, il y a tout le cheminement aussi, et la réflexion sur la langue, sur le langage poétique, sur ses rapports avec la musique, que Dante met au point petit à petit et transforme lui-même.
Oui, parce qu'une des particularités du purgatoire aussi, c'est qu'il croise beaucoup d'artistes.
Oui.
Il y a Cimabue, oui. Giotto et aussi des poètes.
Oui.
Et que c'est aussi le lieu d'une réflexion, en tout cas pour Dante, une réflexion sur l'art.
Oui, oui, oui. Et il rencontre Oderisi d'Agubbio, qui est un enlumineur, et c'est lui qui va lui parler de Cimabue et Giotto, de Guinizelli et Cavalcanti, et qui va montrer que l'art progresse de génération en génération, que les générations suivantes ont tendance à un peu faire oublier momentanément celles qui ont précédé, mais ça n'invalide pas du tout la qualité des générations précédentes, et l'art se nourrit de ses apports successifs, avec de temps en temps quelques difficultés à comprendre que la réputation, la renommée d'un poète puisse éclipser celle du précédent. En fait, c'est simplement une question de temps. Et il faut laisser au temps la possibilité de montrer que l'art, de toute façon, est à toutes les époques, à ses qualités, et qu'il progresse de cette façon.
Traduire, c'est évidemment perdre beaucoup. Mais si je considérais la traduction comme une tâche impossible, je ne publierais évidemment pas un volume de traduction. Je crois qu'on peut recréer, dans sa langue propre, sinon l'œuvre originale, du moins une sorte d'équivalence, de portrait, disons, de cette œuvre, à condition, d'une part, que l'on fasse un très grand effort pour la comprendre dans ce qu'elle dit précisément, dans ce qu'elle est précisément. Et d'autre part, si on consent à se donner des libertés considérables, car c'est par la voie de grandes libertés que l'on redevient soi-même, et on ne peut être que soi-même si l'on veut comprendre quelqu'un. On ne comprend pas l'existence humaine à partir des positions abstraites d'une machine sociologique ou psychologique. On ne le comprend qu'à partir d'une expérience vécue, la sienne propre. Il faut donc traduire Yeats dans sa propre langue, mais après avoir compris ce qu'il était, ce qu'il voulait, si bien que dans sa propre langue, c'est véritablement lui que l'on dira. Vous me direz que c'est impossible de faire cela, et c'est bien vrai, mais enfin, au moins, on peut quand même essayer, et je pense aller assez loin dans une expression personnelle pour avoir le sentiment d'avoir atteint une sorte de point d'appui, de petit sommet du haut duquel on aperçoit l'auteur que l'on a traduit. Traduire, c'est totalement revivre.
Daniel Robert, c'est la voix de Yves Bonnefoy dans une archive de France Culture en 1989, au moment où il traduit Yeats. Comment vous recevez cette parole d'Yves Bonnefoy ?
Alors, je la reçois avec beaucoup de joie, parce que j'ai correspondu pendant une dizaine d'années avec Yves, qui était un ami, et j'ai eu des contacts vraiment très très enrichissants avec lui. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit là. Il se trouve que sur le plan de la traduction rimée de poèmes rimés, il n'était pas tout à fait d'accord avec ça. Et il pensait que cela pouvait nuire à la fidélité qu'on doit au texte et que ça pouvait obliger peut-être le traducteur à des aménagements qui auraient pu détruire le tissu du texte. Et on a eu des échanges assez fréquents là-dessus. Et lorsque je lui ai envoyé mon livre des rimes de Cavalcanti, que j'avais traduite en respectant les rimes du sonnet, de la ballade, de la chanson, il m'a répondu « Vous m'avez convaincu ». Et ça, je dois dire que j'en suis très très fière. Et ensuite, pour l'enfer, malheureusement, il n'a pas eu le temps de le lire en entier parce qu'il est décédé quelques semaines après avoir reçu le livre. Mais il avait un peu parcouru et il m'avait dit « Oui, oui, je crois que c'est la poésie est là. »
Est-ce que vous avez eu le sentiment, comme il dit, que traduire, c'est perdre beaucoup, dans le cas de Dante ?
Certes. Dans tous les cas, oui, il y a toujours de la perte, c'est un art de la perte, mais il faut savoir accepter de perdre quelque chose au profit de quelque chose d'autre qui va être pour le texte un gain, pour le texte d'arrivée, mais même pour celui de départ, parce que on peut, par la créativité qu'on y apporte, soulever quelque chose qui n'était peut-être même pas apparu à l'auteur. Umberto Eco a eu une très très belle formule dans un de ses livres. Il dit « Traduire, c'est dire presque la même chose. » Il dit « Quasi, la stessa cosa. » Et Valerio Magris, qui est un autre écrivain italien que j'aime beaucoup, a ajouté « C'est dans ce presque que se situe la créativité du traducteur. » C'est-à-dire, on n'est jamais un clone du livre qu'on traduit, c'est impossible et puis ça ne serait même pas souhaitable. On apporte un autre ouvrage, un autre livre, avec un grand respect pour ce que le livre initial est, mais aussi ce que soi-même on apporte avec sa propre langue, sa propre culture, sa sensibilité, et même ses défauts. Mais on a donc un ouvrage qui est, comme dit Antonio Prete, une hospitalité. Le traducteur accueille un ouvrage, mais l'auteur aussi a accueilli, sans le savoir même, le texte, la langue de celui qui le traduit. C'est un échange.
Dans le cas de Dante, ce qui est particulier, c'est que, enfin, j'imagine, le traduire, c'est aussi produire tout un appareil critique. C'est-à-dire que pour le lecteur qui ne connaît pas l'environnement du XIIIe, XIVe siècle italien, on est obligé, d'après vous, de produire aussi un appareil critique sur qui est ce personnage qu'on croise dans le purgatoire, toutes les données historiques ?
Absolument, absolument. Je pense qu'il est impossible, pour ce qui est de la lecture de Dante, d'entrer dans le texte comme ça, sans aucune explication, sans aucune note. C'est, à mon avis, c'est voué à l'échec. On ne peut pas le comprendre et on est très vite arrêté, parce que, ne serait-ce que par ce que vous venez de dire, les personnages, mais aussi le contexte social et politique. Tout le monde ne connaît pas les guerres, les querelles entre les guelfes et les gibelins et pourquoi les uns passaient dans un camp après avoir été dans l'autre. Donc, il faut avoir des éléments, d'autant plus que Dante est la plupart du temps très allusif. Comme lui s'adresse à des gens qui, à son époque, étaient tout à fait au courant, comme nous pouvons être au courant, nous, de ce qui se passe politiquement aujourd'hui, il n'a pas besoin de préciser les choses, de mettre les points sur les i. Donc, il fait des allusions. Et si le lecteur du 21e siècle n'a pas ces éléments, il ne peut pas aller, il ne peut pas essayer de dépasser ça pour apprécier la qualité du texte. Il est forcément arrêté, donc il est gêné dans sa lecture. Alors, les notes ne gênent pas, elles sont un plus. L'absence de notes, à mon avis, gêne la lecture.
Affûte bien, lecteur, tes yeux au vrai, car le voile en est si fin maintenant que certes, le pénétrer est aisé. Et moi, je vis ce noble attroupement, après s'être tu, regarder là-haut, pâle et humble, presque comme attendant. Et je vis sortir et descendre d'en haut deux anges avec deux épées flamboyantes, les pointes et le tranchant faisant défaut. Aussi vertes que des feuilles naissantes étaient leurs robes, dont la traîne flottait, que battaient au vent leurs ailes verdoyantes. L'un vint juste au-dessus de nous se poser, le second descendit vers l'autre à plomb, de sorte que la foule en fut encadrée. Je distinguais très bien leurs cheveux blonds, mais de leur visage, la vue se brouillait, comme comme vertu que le trop-plein corrompt. Tous deux sont du sein de Marie arrivés, dit Sordel. Ils sont protecteurs de ce val contre le serpent qui va nous affronter. Et moi, ne sachant pas par quel canal, je regardais autour, gélifié, et me serrais contre l'épaule amicale. Sordel reprit, descendons désormais à ces grandes ombres nous en remettre. Elles vont être de nous voir charmées. Je descendis d'à peine 3 pas peut-être et fus en bas. J'en vis un me scruter comme s'il cherchait à me reconnaître. C'était l'heure où déjà l'air s'assombrissait, mais non au point de laisser obscurci entre nos yeux ce qu'il avait caché. Il vint vers moi et moi j'allai vers lui. Cher juge Nino, combien heureux je fus de ne pas te voir parmi les maudits. Nous échangeâmes de multiples saluts, puis il demanda « Quand, au pied de ce mont, par de lointaines eaux, es-tu venu ?»« Oh, dis-je, c'est par de tristes régions, ce matin. Je suis dans ma première vie, devant gagner l'autre de cette façon. » Sitôt que ma réponse fut oui, Sordel et lui firent en arrière un pas comme des gens soudain abasourdis. L'un vers Virgile, et vers un assis là, l'autre se tourna, criant « Conrad, allez, viens voir ce qu'en sa grâce Dieu décida. » Et Nino à moi, « Par ce don singulier que tu dois à celui qui cache tant ses voies suprêmes qu'il n'y a pas de guet, quand tu retourneras chez les vivants, dis à ma Jeanne d'intercéder pour moi, là-bas où l'on répond aux innocents. »
Daniel Robert, c'est une deuxième lecture qu'on entend par Mélissa Barbeau. Cette fois, c'est le chant 8 du Purgatoire. On est dans la vallée des princes négligents. Et on entend au début cette adresse de Dante au lecteur, qui est une de ses particularités aussi, qui est que dans ce chant-là, dans le Purgatoire, en tout cas dans le groupe de chants, il s'adresse très très souvent au lecteur. Qu'est-ce que ça a de particulier ?
Oui, il le fait dans chacune des 3 parties. Il essaie de réveiller le lecteur pour le cas où il se serait un petit peu assoupi, où il, mais c'est métaphorique, où il n'aurait pas assez une perception assez vive de ce qu'il faut entendre pour être au fait de la question. Donc très souvent, il demande au lecteur d'affûter son esprit, c'est-à-dire de se réveiller à la vérité. Très très fréquemment.
Et ça crée un effet aussi qui est que donc Dante est dirigé dans tout l'enfer et dans tout le purgatoire par Virgile, que nous aussi on est un peu les troisièmes, enfin le oui. troisième en tout cas à suivre ce convoi là.
Tout à fait, tout à fait. Il nous fait cheminer avec lui. Et la plupart du temps, lorsqu'il dit je, il pense nous tous, tous les êtres humains. Il parle au nom de tous les humains. Et il sait qu'ensuite il va écrire. Lorsqu'il est dans le temps du purgatoire, il va revenir sur terre, c'est la mission qui lui est confiée après le paradis, pour dire ce qu'il est en train de dire au présent. Il y a tout un jeu chez Dante sur le présent fictif qui est celui du moment où se passe l'action, le présent qui est celui du temps où il écrit, quelques années après, et puis ce jeu entre le présent, le futur, c'est une sorte toujours dans un futur antérieur. Il vit toujours là, dans cet espace étonnant.
Il y a aussi des moments où il attire l'attention du lecteur sur attention, ici il va y avoir un sens caché, ou en tout cas il faut se concentrer, puisqu'il va y avoir un moment qui va avoir une multiplicité de sens. Et c'est notamment le cas, vous le dites dans l'introduction du Purgatoire, de tous les moments où Dante se met à rêver. Parce qu'il y a plusieurs moments dans le purgatoire où Dante s'effondre, soit qu'il est épuisé, soit que ce qu'il voit est trop violent. Oui. Il se met à rêver. Quelle est la place de ses rêves dans le purgatoire?
Il y a 3 rêves dans le purgatoire. Alors, ce n'est pas forcément parce que ce qu'il voit le tourmente trop, mais c'est qu'il y a 3 journées dans le purgatoire, et la quatrième journée, c'est l'accession au paradis terrestre. Et donc, il y a trois nuits. Et donc, le soir, il s'assoupit, il est le seul à pouvoir dormir, les ombres ne dorment pas. Elles n'ont pas besoin, ne ressentent pas la fatigue, donc il s'assoupit et il rêve. Et évidemment, ces trois rêves sont symboliques et ont une très grande importance, mais je ne vais peut-être pas dévoiler leur sens.
Oui, parce qu'il y a une multitude d'interprétations. Comment vous avez intégré, est-ce que vous avez intégré toutes ces interprétations qui peuvent exister de la Divine Comédie? Est-ce que c'est des choses qui servent la traduction ou qui peuvent la gêner?
Oh, ça sert la traduction. Après, il faut faire des choix, parce que non seulement pour les rêves, mais pour beaucoup d'autres passages, il y a de multiples interprétations. Depuis 700 ans, les commentateurs ont été innombrables, et il y a beaucoup de variantes, du fait aussi qu'il n'y a pas de texte original de Dante, on n'a que des copies. Et ces copies comportent des variantes. Alors, suivant les époques, on a choisi telle leçon ou telle autre. Alors, évidemment, on ne peut pas tout embrasser, et lorsqu'on est devant la traduction, il faut faire des choix. On ne peut pas traduire toutes les interprétations à la fois. Impossible. Donc, là, moi, le choix que j'ai fait, c'est une étude, un commentaire très important de Anna Maria Cavacci-Leonardi, qui elle-même s'est inspirée de très grand philologue Petrocchi, mais qui a apporté sa propre pierre au travail. Alors, la plupart du temps, je me suis fiée à son interprétation. Mais par moments, je m'en suis écartée et j'ai opté pour celle de Pézard, qui est très intéressante aussi, ou celle de Petrocchi, ou d'autres. Et là, donc, je l'ai indiqué aussi en note, parce que ça fait partie aussi du bagage essentiel. Il faut que le lecteur comprenne pourquoi, à tel moment, je traduis d'une manière qui ne semble pas être l'équivalent en italien. Donc, j'explique pourquoi un tel terme ou tel vers a de multiples, au moins plusieurs sens possibles, et pourquoi je choisis tel sens plutôt que tel autre.
Par les temps qui courent, France Culture, Romain de Bec de Lièvre avec Daniel Robert.
Guillaume c'est Marido, Guillaume Stampoli, Guillaume c'est Marido, Guillaume Stampoli. Marindo l'escrimbo, to l'escrimbo tanto lì, Marindo l'escrimbo, to l'escrimbo tanto lì. Se là, se prendo un tombe, senza ora panservi, se là, se prendo un tombe, senza ora panservi. Appeita su marin da che ti le scrivo to appeita su marin nel re un puntre a lusmores l'umore san ragim nel re un puntre a lusmores l'umore san ragim. Passe tous dans la porte, escribo tanto et remets en passe tous dans la porte, escribo tanto et remets en passe, les fangs responso, escribo tanto, yes, passe à maire, les fangs responso, escribo tanto.
Que je ne faudrais jamais oublier par rapport à la culture italienne, c'est que la culture italienne naît sous les signes de la comédie. On n'a jamais réfléchi assez pourquoi Dante a appelé son poème comédie, comédie. Là, il a fait un geste qui a marqué toute la culture italienne. C'est un geste profondément anti-tragique. C'est un geste qui affirme l'impossibilité de la tragédie dans l'époque moderne. Et bon, après, on a ajouté l'adjectif divine, là, justement, parce que on ne savait pas que faire, de quoi faire de cette comédie. Ça ne semblait pas assez noble qu'une tradition commence sous les signes comiques. Dante, c'est un auteur comique, dans ce sens.
Daniel Robert, on entend la voix de Giorgio Agamben, le philosophe italien, une archive de France Culture de 1998. Comment vous recevez cette parole-là, dire que Dante est un auteur fondamentalement comique?
Je ne crois pas qu'il soit fondamentalement comique. Ce que Giorgio Agamben dit, je le discuterai un petit peu, parce que Dante lui-même a expliqué le sens de ce titre. Il se place par rapport à l'Énéide, qui est le grand texte tragique. Ça ne veut pas dire que c'est tragique en soi, mais c'est le genre qui est la tragédie antique. Et il apporte, lui, un autre ouvrage qui, dit-il, se termine bien. C'est pour ça que c'est une comédie. La tragédie antique, grecque et latine, c'est le désespoir absolu. C'est le destin qui l'emporte sur la vie. Or, lui veut montrer que c'est la vie qui va l'emporter sur le destin et sur les péchés du monde et sur la détresse. Donc, il a appelé son ouvrage comédie pour cela. Cela dit, à l'intérieur de la comédia, il y a des passages comiques. Surtout d'ailleurs dans l'enfer. Lorsque on voit les diables s'agiter dans la poix et s'invectiver, et il les rend complètement grotesques, il y a des passages très comiques. Il y a aussi du comique dans les châtiments qu'il inflige aux pêcheurs de l'enfer, et il ricane, il peut être sarcastique. Il y a tous les tons chez Dante, mais fondamentalement, il n'est pas comique.
Moi, ce que j'entends dans cette archive, surtout peut-être dans le terme comique, c'est quelque chose qui relèverait plutôt de la dimension populaire, en tout cas. Peut-être.
Oui, c'est vrai, il y a ça aussi.
C'est-à-dire qu'il y a ça chez Dante, oui. Tout le temps, la question de l'artisanat, la oui. question du langage, le langage des bateaux qui revient extrêmement souvent, oui. la question des nacelles, des voiles, oui. Il y a même des remarques sur la manière dont les gens tissent le fil. Il y a tout un lexique comme ça qui relève de la culture populaire, enfin en tout cas de l'artisanat.
Oui. Mais ce n'est pas fondamentalement comique, ça. Et chez Virgile aussi, il y a des passages de ce type. Donc là, je crois que vraiment, oui, c'est vrai, il est extrêmement proche de tous les travaux manuels et de tout ce que le peuple porte en lui de richesse. Bon, dans le mot comédie, il met sans doute un peu de ça pour dire que on n'est pas dans les grandes idées tragiques avec l'homme face à son destin. On est aussi, c'est tout le peuple entier, le peuple de tous les humains, avec ses faiblesses, avec ses qualités. Et donc c'est un petit peu ça qui est contenu dans le mot comédie. Mais ce n'est pas comique.
Il y a un moment où il y a un rire de Dante, c'est dans le chant numéro 22 ou 21, je ne sais plus, où il rencontre un autre poète latin, qui autre que Virgile, qui s'appelle Stas. Et Stas rencontre Dante et lui dit « Moi, j'ai une idole dans la vie, pour aller vite, c'est Virgile. » Et Virgile, à ce moment-là, dit à Dante « Ne dis rien, ne dis pas que c'est moi. »
Il lui fait signe.
Il lui fait signe. Et Dante se met un moment à rire, ou en tout cas à sourire. Et il y a une scène comme ça, extrêmement étrange, un peu en suspension, où on a donc deux des plus grands poètes latins de l'Empire et Dante à côté. Et une scène où, en tout cas, il y a du rire.
Oui, 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 c'est vrai. C'est vrai, en tout cas, du sourire, de l'humour. Il y a beaucoup d'humour chez Dante, à plusieurs reprises. Oui. Mais c'est aussi pour lui une façon d'humaniser Virgile, qui est pour lui, évidemment, une idole, et il est dans l'admiration la plus totale pour lui. Mais il montre que Virgile est capable d'être simple. Et de temps en temps, il le tense, lui dit « Allez, debout, lève-toi » il lui parle comme un petit gamin. Et c'est Dante, évidemment, qui lui fait dire ça, parce qu'il veut montrer qu'il y a chez Virgile une grande tendresse à son égard. C'est ce qu'il souhaite, puisqu'il l'adore.
Et dans le rapport entre la Divine Comédie et l'Énéide, il y a cette question que vous pointez aussi dans l'introduction du Purgatoire, qui est le rapprochement que Dante fait entre Virgile et la chrétienté.
Oui. Oui, parce que Dante a acquis la conviction que Virgile était un annonciateur, sans le savoir, du christianisme, et Ovide surtout. Il voit Ovide comme une sorte de Christ avant la lettre. Après, toute la chrétienté a un peu adopté ça. Enfin, toute la chrétienté, le Moyen-Âge a adopté cette vision. C'est vrai, il le voit de cette façon. C'est pourquoi il fait constamment des allers et retours entre les exemples pris dans le monde païen et ceux qu'il prend dans la Bible ou les évangiles. Chaque fois qu'il veut illustrer un propos, il prend un exemple dans les Métamorphoses, par exemple, et puis... Parallèlement, tout de suite après, il donne un exemple pris dans l'évangile de Saint-Luc ou de Saint-Jean, qu'il connaissait sur le bout des doigts.
C'est une manière de quoi ? De rehausser la poésie au rang d'un texte sacré ?
Certainement, certainement. Ça fait partie de ça, puis ça fait partie aussi de sa foi. Il veut essayer de tirer le monde païen vers la chrétienté en montrant que dans cet univers qui ignorait le Christ, puisque par la force des choses, il y avait quand même un désir.
Ça nous amène à la question, en tout cas, qui est que traduire Dante, ou en tout cas avoir affaire avec Dante, c'est ne pas avoir affaire uniquement à de la littérature ou à de la poésie. Est obligé de mélanger un certain nombre de savoirs autour de la théologie, de l'astrologie. On a l'impression qu'on est aussi dans une période où tous les savoirs se mêlent.
Et oui, parce que au Moyen-Âge, le savoir n'était pas spécialisé comme il l'est de nos jours. Les gens étaient des puits de science dans tous les domaines. Et Dante était très, très intéressé par la médecine, par la géométrie, les mathématiques, la cosmologie. Toutes les sciences participaient à l'œuvre pour lui.
Mais Virgile nous avait délaissés. Privé de lui, Virgile, mon très cher père, Virgile à qui mon salut je confiais. Et tout ce que perdit notre antique mère n'empêcha pas mes joues baignées de rosée de revenir à des larmes amères. Dante, parce que Virgile disparaît, ne pleure pas encore, ne pleure pas. C'est d'un autre coup que tu dois pleurer. Tel un amiral arpentant pas à pas, poupe et proue pour voir ces hommes affairés sur les bateaux, les pousser au combat, sur le côté gauche du char dressé, à l'appel de mon nom me retournant, ce que je note ici par nécessité, je vis la dame apparue auparavant sous la liesse des anges voilée, me dévisager par-delà le courant. Bien que le voile qui de son front tombait, couronné des frondaisons de Minerve, ne la laissa paraître avec clarté, avec un port de royale réserve, elle poursuivit, comme on sert des prémices lorsque les mots les plus chauds on conserve. Regarde-moi, c'est moi, bien moi, Béatrice. Comment as-tu osé gravir ce mont ? Ne savais-tu pas que ces lieux de délices, mon regard sombra dans la limpide fond, mais en m'y voyant, je le portais sur l'herbe, tant la honte m'alourdissait le front. La mère à son fils paraît aussi superbe qu'elle me parut, parce qu'est amère le goût qu'on éprouve d'un amour acerbe. Elle se tut, et les anges chantèrent, soudain, « In te domine speravi », mais pedes meos ils ne dépassèrent. Comme la neige sur le dos d'Italie, entre les troncs de sapins vifs se gèle quand soufflent et pressent les vents de Slovénie, puis liquéfiée des gouttes tout en elle, pourvu que la terre sans ombre transpire, tout comme le feu fait fondre la chandelle, ainsi étais-je, sans larmes ni soupirs, avant le chant de ceux qui ont suivi de tout temps les notes des cieux sans faiblir. Mais quand dans leur doux timbre j'eus compris leur compassion pour moi, plus que s'ils avaient dit « Madame, pourquoi l'anéantir ainsi ?» le gel qui autour du cœur me comprimait devint souffle et eau et, de moi tout contrit, par la bouche et les yeux fut expulsé.
Daniel Robert, on entend dans la voix de Mélissa Barbeau le chant numéro 30 du Purgatoire, on s'approche de la fin. Et c'est un moment où donc Dante est arrivé au sommet de la montagne avec Virgile. Et il y a cette scène déjà extraordinairement émouvante où c'est les adieux à Virgile, puisque Virgile explique à Dante qu'il ne peut pas le suivre à ce moment-là. Et apparaît la figure de Béatrice. Comment vous avez traité cette figure-là? Comment elle vous apparaît?
La figure de Béatrice, oui. Pour moi, c'est une métaphore. C'est une métaphore de l'écriture poétique, de la poésie. Ça peut être aussi celle de la philosophie. Ça peut être la métaphore de beaucoup de choses. C'est l'amour, bien sûr. C'est l'amour qui conduit à la poésie, qui permet l'écriture poétique. Ce n'est pas une vraie femme. Ce n'est pas Béatrice a existé. Dante dit l'avoir rencontré une première fois à 9 ans. Ils avaient tous les deux 9 ans. Il l'a juste vu passer. Puis 9 ans après, à 18 ans, donc, et les chiffres 9 est très important, ça va être le chiffre de Béatrice. Donc il y a toute la numérologie là qui joue. À 18 ans, il l'a vu de nouveau. Mais ils ne se sont pratiquement pas parlé. Ils n'ont pas eu d'idylle ensemble. Et elle est devenue une figure pour lui totalement poétique, c'est-à-dire qu'il toute sa vie a été ensuite guidée par la recherche de cette Béatrice. Ça ne l'a pas empêché de se marier et d'avoir des enfants, 4 enfants. De même que Béatrice la vraie s'est mariée, bon, il se trouve qu'elle est morte très jeune. Et la mort de Béatrice a été pour lui une sorte de déclencheur, de révélateur de quelque chose qui était bouleversant et qu'il fallait avec quoi il fallait vivre. Bon, d'où l'écriture de la comédie. Alors, lorsqu'elle apparaît ici, le lecteur est très étonné parce que comme il nous a habitués à attendre cette arrivée comme une sorte d'apothéose de l'amour, et on s'attendrait à les voir tomber dans les bras l'un de l'autre.
Oui, absolument.
Pas du tout, pas du tout. Il ne la touche jamais. Et elle, on ne peut pas dire qu'elle est amoureuse de lui. Elle n'est pas dans cet espace-temps. Elle est au-delà de ça, dans sa pensée à lui. Ce n'est pas une femme qu'il peut désirer. Elle arrive et elle lui fait des reproches très amers. Et d'abord, elle commence à lui dire « Ne pleure pas, c'est par d'autres coups que tu vas pleurer. » Elle le menace même, ce qui est un peu stupéfiant et un peu étrange. Mais petit à petit, on comprend que par là, Dante veut montrer qu'elle va être l'instigatrice d'une profonde métamorphose de sa part. Elle va l'aider, en fait, à prendre conscience de ce qu'il est, de ses faiblesses, et une fois qu'il en aura pris conscience, il va pouvoir goûter aux eaux du Léthé, c'est-à-dire à l'oubli de ses fautes, et après à entrer dans un autre univers grâce à un fleuve que Dante invente et qui est le Noé, et qui lui permet d'accéder à la régénération totale.
Elle serait l'instrument d'une sorte de travail spirituel pour Dante.
Voilà, exactement. Et ce qu'il veut dire par là, c'est que tous les humains, par l'amour, nous pouvons nous transfigurer, nous transformer. Mais pas l'amour d'une personne, forcément. L'amour qui meut le soleil et les étoiles, qui sera le dernier vers du paradis.
Ça qui a d'être très étrange, en tout cas, dans cette figure, c'est que de la figure de Béatrice, c'est que oui, à la fois, on nous en a parlé pendant deux chants, enfin, tout le chant de l'enfer et presque la totalité du chant du purgatoire. Et quand elle apparaît, enfin, on a l'impression que c'est une des figures les plus chargées de la littérature occidentale.
Vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et je crois que là, il a voulu vraiment surprendre le lecteur. Et il a voulu qu'à cet endroit-là, on affûte encore plus notre esprit et qu'on se rende compte que là, il y a quelque chose à creuser. Il faut réfléchir à cette scène et essayer de voir tout ce qu'elle implique et toutes les conséquences qu'on peut en tirer.
Il y a une grande rupture de ton, j'ai eu l'impression, en tout cas à la lecture du purgatoire, enfin, en tout cas dans votre traduction, à la fin, puisque le tout est par rapport à l'enfer plus austère, plus sobre. Et à la fin, au moment de, c'est la porte d'entrée du paradis en fait, il y a quelque chose d'un déferlement d'images en tout cas. Il y a le char accompagné de cette jeune fille qui représente des vertus où les symboles se déchaînent. On a l'impression que Dante déploie ici quelque chose d'une sorte de feu d'artifice poétique.
Tout à fait. Et après tout ce qu'il a fait pendant tout le purgatoire en nous faisant entendre des voix, là tout d'un coup on a des visions. Et lui qui a fait des rêves, là, il nous montre, non pas des rêves, mais une vision, des visions prophétiques, et il nous invite à entrer dans ces visions.
Comment vous percevez cette idée-là, que Dante puisse apparaître comme un prophète ?
C'est un peu ce que tous les poètes pensaient être au Moyen-Âge, comme dans l'Antiquité, puis encore bien après. Le poète est un devin. Il possède une vertu qui est de pouvoir dire ce que tous les hommes aimeraient pouvoir dire, mais lui seul a la capacité de l'expression poétique.
Merci Daniel Robert. Votre traduction du Purgatoire de Dante Alighieri est publiée aux éditions Actes Sud, comme celle de l'Enfer. Et je signale que votre traduction des Métamorphoses d'Ovide vient de paraître en poche dans la collection Babel. Ce soir au son, c'était Philippe Mercher, Lise-Marie Barré était à la réalisation. Merci à Jeanne Aléos, Anna Baron et Lou Quevauvillier qui pensent et préparent cette émission avec moi. Et merci à Mélissa Barbeau d'avoir lu les textes du Purgatoire de Dante. Par les temps qui courent, on se retrouve demain à 21h. Pour réécouter Par les temps qui courent, rendez-vous sur la page de l'émission sur franceculture.fr où vous pourrez vous abonner au podcast.
I never really let them. All the friends that I'm proud of, I never really. I never really see them. Welcome home, honey. How far is the place where? How long is it to get there? It means so much to me. Here come the dogs. My legs and a the things that are, all the things that I regret today. I never really